vais vous parler de l'ingénierie industrielle, mais ça va être un petit peu orienté, parce que l'ingénierie industrielle, ça ne concerne pas que le pétrole, etc. La société dans laquelle je travaille s'appelle Technip. Technip, ça veut dire tout simplement technique de l'industrie du pétrole. C'est une société qui a environ 55 ans, je pense, et qui a été créée essentiellement pour, au départ, traiter des problèmes de raffinage de pétrole, au départ. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'autres choses, et j'espère que j'arriverai à vous le montrer. Et en fait, on va parler de l'ingénierie, c'est plutôt pour vous montrer, c'est pas pour vous expliquer ce qu'on fait dans le détail, rassurez-vous, il va pas y avoir de la chimie, il va pas y avoir des choses comme ça. C'est un petit peu plutôt pour que vous voyez que ça touche beaucoup, beaucoup de domaines, dans le domaine de la construction, de la réalisation de projets. Alors déjà, on va regarder un petit peu, finalement, ingénierie, si vous regardez le mot, il y a le mot ingénieur plus ou moins dedans. Et qu'est-ce que c'est un ingénieur? C'est quelqu'un qui va, avec des connaissances, arriver à résoudre des problèmes. Alors en général, l'ingénieur, c'est un ingénieur scientifique, au départ du moins. Donc il y a une notion de création, de résolution de problèmes, et il y a surtout une notion de science. Et je pense que vous êtes des scientifiques ici essentiellement. Pourtant, dans l'ingénierie, il n'y a pas que des métiers scientifiques, heureusement. Il y a d'autres métiers. Et puis ingénierie, alors c'est un mot qui est un petit peu barbare, qui a été créé. Ça a été créé pour traduire le mot anglais « engineering », parce que personne ne dit « ingénierie », nous on dit « on est un engineering ». Mais en France, on doit dire « ingénierie ». D'ailleurs, si on travaille pour le gouvernement français, l'administration nous oblige à dire « ingénierie ». C'est comme ça. Alors l'ingénierie, c'est un petit peu différent. L'ingénierie, il n'a pas que des ingénieurs, et l'ingénierie, son but, c'est plutôt d'étudier des problèmes dans le détail et de réaliser quelque chose de concret, à partir de techniques. Donc on va construire, il va y avoir la notion de construction, la notion de réalisation. Donc on va mélanger la notion de création et de réalisation. Et c'est ça les métiers de l'ingénieur. Alors après on peut voir un petit peu, au départ ingénieur en vieux français c'était simplement des engins militaires. Les ingénieurs ne faisaient que la guerre. Donc aujourd'hui heureusement on ne fait plus, enfin j'espère, nous en tout cas on ne fait pas la guerre. Il y a certainement des ingénieurs d'armement, etc. Mais nous, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est vraiment de construire. Donc voilà, ça c'était des origines un petit peu étymologiques. C'est mon côté professeur. Mes parents étaient professeurs, je vous le dis tout de suite. Alors, si on regarde un petit peu, ça c'est de l'ingénierie, mais pas industrielle. Les pyramides, ça a été une création. Quelqu'un a conçu ces pyramides. Quelqu'un les a organisé le travail, il y a eu des ouvriers pour les réaliser, ils les ont construites, elles sont toujours là. Notre-Dame de Paris, c'est également de l'ingénierie. Parce que ce n'est pas simplement une œuvre d'art. Il a fallu calculer, il a fallu tout faire. Là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais à Notre-Dame de Paris, il y a des arcs-boutants qui tiennent des murailles. Au départ, ils n'étaient pas prévus. Et puis des compagnons, on les appelait des compagnons à cette époque, ont fait des calculs et se sont rendus compte que la flèche et toute la partie de la nef ne pouvaient pas tenir si on ne les soutenait pas. Et donc ils ont rajouté des arcs-boutants. Ça, c'est de l'ingénierie. Et pourtant, ça se passait au Moyen-Âge. Donc voilà, ça, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que nous, on le fait dans l'industrie. C'est la même chose. Toutes ces réalisations, évidemment, ont un but. En fait, on va avoir un projet, on va l'étudier, on va rassembler toutes les compétences qu'il va falloir avoir. Il va y avoir des maçons, il va y avoir des gens qui calculent les matériaux, il va y avoir des dessinateurs, il va y avoir des artisans ou des ouvriers qui construisent, et ensuite il va y avoir quelqu'un qui va assembler tout ça pour en faire un ouvrage fini. C'était vrai pour Notre-Dame de Paris, et c'est vrai aujourd'hui. Donc, par exemple, vous prenez la Tour Eiffel, Paris, enfin il y en a peut-être d'autres, mais à Las Vegas il y en a une aussi, mais celle-là c'est celle de Paris. C'est déjà une œuvre d'ingénierie, bien qu'aujourd'hui ça soit considéré comme un monument historique. Toutefois, monsieur Eiffel c'était quand même un ingénieur. Aujourd'hui on construit ça, donc c'est moins beau. C'est ce qu'on appelle une torche. Ça ressemble un petit peu quand même. Entre une cathédrale et nos usines, finalement c'est pas si différent que ça. Les cathédrales tout en pierre, nos usines tout en métal quasiment, mais il y a autant de calculs et autant de travail dans la cathédrale qu'il n'y en a dans nos usines. Bon, c'est, je vous l'accorde, c'est moins joli, mais on parle d'industrie à nouveau. Je passe un petit peu parce que quand même il y a des choses qui ne vous intéresseront pas. Aujourd'hui, si on devait définir l'ingénierie industrielle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un travail d'équipe. On ne peut pas dire qu'il y a une ingénierie s'il n'y a qu'une personne. C'est pas ça. L'ingénierie industrielle, c'est des projets qui rassemblent des équipes de personnes. Et les équipes, elles peuvent être aussi importantes qu'un millier de personnes à la fois, voire plus quand on a le chantier. Le chantier, ça peut être 10 000 personnes. Mais dans l'ingénierie, il peut y avoir 1 000 personnes qui, d'un bout à l'autre du projet, vont participer. Alors, pas tout en même temps, mais chacun à son tour. Il va y avoir donc 1 000 personnes, ça veut dire pas 1 000 personnes qui font la même chose, 1 000 personnes qui font des métiers différents, qui ont toutes des compétences différentes. Donc on va avoir quelque chose qui... C'est vraiment le travail d'équipe. Si on n'aime pas le travail d'équipe, il ne faut pas faire d'ingénierie, parce qu'on dépend des autres, et les autres dépendent de nous à chaque instant. Et d'autre part, on ne travaille pas sur des choses toujours simples. Bien sûr, on fait des choses faciles. Quelque chose qu'on a fait une fois, on va le refaire deux fois, trois fois, à la fin, ça devient même un peu lassant. C'est un petit peu comme les exercices. Mais quelquefois, on va créer quelque chose de nouveau. On va nous donner un problème et on va dire, ah, je ne sais pas comment il va falloir faire pour le résoudre. Donc, on va commencer par chercher. On va donc faire de la recherche, on va développer et on va appliquer. Et je vous parlerai un petit peu plus tard de ce que nous faisons lorsqu'on développe. En particulier aujourd'hui, ces choses-là sont vraies dans tout ce qui est les exploitations de gisements de pétrole qui sont situées en mer. Et aujourd'hui, ça, on parle de la mer profonde. C'est-à-dire qu'on va chercher le pétrole à 3 000 mètres et plus. Il est évident que ce n'est pas du tout la même chose que creuser un puits au Texas. Donc, quand on a fait 50 mètres, le pétrole jaillit. Donc, il y a eu quand même des difficultés techniques. Et ça nécessite des gens qui vont chercher, trouver, aussi bien des ingénieurs qui vont calculer que des gens qui vont réaliser des outils nouveaux pour arriver à sortir ce pétrole ou ce gaz, etc. En plus, on essaye de répondre aux nouveaux problèmes, puisqu'on parle d'énergie, on essaye de répondre aux problèmes d'environnement, nouveaux problèmes pour éviter de gaspiller l'énergie, pour en créer des sources nouvelles, des énergies nouvelles, tout ça. Donc tout ça vient, je dirais, agrémenter le travail qui peut paraître quelquefois se dire, bon, c'est quand même de l'industrie, mais non, c'est très très varié. Moi, ça fait quand même 30 ans, un peu plus même, que je travaille dans le même domaine, et bien, j'ai toujours l'impression que je fais des choses nouvelles. Donc c'est quelque part assez intéressant. Alors, dans l'ingénierie, il y a deux choses importantes. Montrer que c'est une chaîne, c'est un ensemble de techniques qui s'enchaînent, et d'autre part, la notion, ce qu'on appelle nous un projet. Puisque j'ai dit tout à l'heure que le but de l'ingénierie, c'était de construire un objet, en fait cet objet, c'est un gros objet, ça va être éventuellement une usine, ça peut être un bâtiment également, puisque le bâtiment, c'est aussi de l'ingénierie, eh bien tout ça, il y a une chaîne de travail, mais chaque objet est un projet. Et un projet, c'est vraiment le cœur de l'ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est un projet? On les appelle, en fait, nous on les appelle des contrats, parce qu'évidemment on est payé pour ça, pour faire ça, heureusement. Et le terme qui est indiqué sur l'écran, EPC, c'est de l'anglais évidemment. E, ça veut dire engineering, P, ça veut dire procurement, procurement, ça veut dire achat, en fait. Et C, ça veut dire construction, et en français, heureusement, ça se dit pareil, construction. Donc on parle, ça c'est, on construit, on nous donne en fait un cahier des charges, on nous dit voilà, je veux ceci, et à la fin, on doit livrer un objet. Exactement la même chose que lorsqu'on veut acheter, par exemple, faire construire une maison. Vous allez dire à un architecte, je veux ma maison comme ci, comme ça, il va vous dire, ça va vous coûter tant, et il va vous faire réaliser votre maison au prix convenu. C'est ce qu'on appelle les clés en main, ou une voiture, c'est pareil. Une voiture, c'est un objet clé en main. Alors, les trois étapes, donc l'ingénierie, les achats et la construction, font appel à des métiers un petit peu différents. Il y aura peut-être plus de papier dans le côté ingénierie, il y a plus de finances et d'argent dans les achats, puisqu'on va acheter des choses, donc il faut faire attention. Et dans la construction, il y a un petit peu plus, comment dire, de grands terres, de terrain. On va aller se déplacer sur des sites un petit peu délicats. Donc ces trois choses-là viennent en séquence. Et évidemment, à chaque fois, les informations doivent bien passer d'une séquence à l'autre. il n'est pas question de couper le flux d'informations entre chaque séquence. Et là, si on les regarde donc l'une après l'autre, le travail que je fais, moi, donc procédé, c'est au tout début. C'est vraiment le travail initial. On va concevoir sur le papier les usines, on va tout calculer au départ. Ensuite, il va y avoir des gens qui s'appellent les études, qui sont des spécialistes de diverses techniques. Et là, vous commencez à voir les métiers, qui, à part l'ingénieur qui conçoit au départ, qui fait du génie chimique, et bien derrière, il y a une kyrielle de spécialités, ingénieurs ou techniciens, on n'est pas forcément tous ingénieurs, qui vont s'adresser à différentes techniques. Et c'est là que vous allez voir presque tous les métiers techniques qui existent. Le génie civil, que ce soit le béton, les fondations, tout ce qui est creusement de terrain, terrassement, tout ce qui est charpente, donc structure, des calculs mécaniques assez compliqués. On a des gens qui font de la tuyauterie, donc des pipelines. On a des architectes en architecture navale, parce qu'on verra tout à l'heure, on fait beaucoup de bateaux dans l'ingénierie. C'est assez intéressant d'ailleurs. On a beaucoup travaillé, par exemple, avec des sociétés comme la Comex, qui est installée pas très loin. On a aussi ce qu'on appelle, nous, des équipements. Alors, ces équipements, on en verra quelques-uns derrière. Mais c'est tout ce qui ressort un petit peu quand on voit une photographie d'usine. Il va y avoir des fours, des pompes, des compresseurs, des échangeurs de chaleur, etc. On va avoir des gens qui font du génie climatique, c'est-à-dire réchauffer, refroidir, climatiser des salles. On va avoir des gens qui font de l'instrumentation, automatisme, électronique. On va avoir des gens qui font de la documentation. Donc ça, ce ne sont pas des ingénieurs scientifiques en général. On va avoir des gens qui connaissent les matériaux, la corrosion, le métal, la métallurgie, la soudure. On va avoir des gens qui connaissent la sécurité industrielle, la sécurité tout court. Donc quand on parle sécurité, là on parle sécurité au sens de l'industrie, c'est-à-dire les risques industriels, le feu, l'explosion, etc. Donc ce sont des gens qui font des études assez spéciales pour définir les installations de sécurité. On va avoir des gens qui s'occupent d'environnement également, de protection d'environnement. Ce sont en général des gens spécialisés, mais on est tous concernés par la protection de l'environnement, donc on leur parle et c'est eux qui définissent nos normes. On va avoir aussi des gens qui vont faire de l'installation. Alors, installation en mer, mais aussi installation à terre, des gens qui font de la construction. Ça, c'est sans les études. Ensuite, excusez-moi, je suis allé trop vite. Dans mon ordinateur parle anglais, vous avez vu. Voilà. Ensuite, on a les gens qui font la partie. Donc ça, c'est les études et c'est les premières choses qui viennent. Ça représente des milliers et des milliers de documents. Aujourd'hui, c'est tout géré par informatique. Donc on verra tout à l'heure un petit peu les systèmes d'informatique, mais c'est tout géré par informatique. Ensuite, on a les gens qui font les achats concrets des équipements qu'on a définis. Donc ils vont négocier avec des fournisseurs, ils vont signer des contrats, ils vont inspecter le matériel fait, qui a été construit, et ils vont s'arranger pour que tout ça soit transporté sur le site de construction. Et finalement, on va construire. Alors pour construire, en général, on a besoin d'entreprises de construction. Évidemment, ce n'est pas nous qui possédons les bulldozers, les grues, etc. Donc si on construit dans un pays donné, je prends par exemple, on va construire en Afrique, eh bien on va trouver une entreprise de construction qui est en Afrique. On ne va pas prendre une entreprise de construction française. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'ils exportent leur matériel. Et lorsqu'on a fini de construire, eh bien on revient au départ parce que ce sont ceux qui ont fait les études qui vont aller démarrer l'unité et la livrer au client après des tests. Donc vous voyez, c'est une espèce de chaîne, mais c'est aussi une boucle. Donc la personne qui a travaillé au début a toutes les chances, au bout de 2 ou 3 ans, de se retrouver sur le site pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, j'en sais rien, si ça marche bien le plus court possible, pour prouver que ce qu'elle a fait construire fonctionne comme il se doit. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon métier, finalement, qu'on appelle le génie des procédés. Alors, j'aime beaucoup le mot génie, parce qu'on n'est pas des génies du tout, justement. On est juste des gens qui avons fait des études scientifiques. Alors, en général, on a une formation d'ingénieur, on appelle ça génie chimique. Parce qu'au départ, on construit beaucoup d'usines qui font appel aux hydrocarbures, etc. Donc ça, c'est un petit peu de la chimie, plus ou moins. Mais il y a également des ingénieurs d'autres niveaux, par exemple hydrodynamique, machines tournantes, électricité, etc. En procédé, on est plutôt génie chimique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit en fait un petit peu une façon de faire, par exemple quelque chose, une réaction chimique qui a été trouvée en laboratoire, on la traduit dans une quantité industrielle. Ça, c'est notre métier. Et on fige en fait l'usine telle qu'elle devrait être, les grandes étapes et le détail des équipements. Ça, c'est vraiment la base, le génie chimique. Alors évidemment, ce genre de métier, en général, on a essentiellement des ingénieurs. En génie chimique, mais attention, c'est pas des ingénieurs, c'est pas polytechnique. Non, c'est pas la peine, ça sert à rien. On fait du génie chimique, donc il y a énormément d'écoles qui forment à ce genre de choses. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure les études. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de spécialités dans les études, la définition des équipements, la définition des sols, etc. Donc j'espère vous donner une vision de ce que les études étudient. Voilà. Donc ça, c'est un compresseur. Enfin, c'est l'intérieur d'un compresseur. Vous voyez, donc c'est pas des choses abstraites, c'est du concret. On va définir ces choses-là. Alors évidemment, c'est pas nous qui allons calculer tout, c'est un spécialiste fournisseur qui va calculer, mais c'est ce genre de machine qu'on va acheter et faire tourner. Donc on a besoin de gens qui comprennent la mécanique, qui comprennent la compression, qui comprennent le pompage, etc. Donc ce sont des spécialistes. On va également construire ce qu'on appelle des appareils sous pression. C'est en général ce qu'on voit sous forme de grosses colonnes dans les raffineries, des choses comme ça. Vous voyez ce genre d'appareil. Alors là, celui-là, il est en cours de transport. Celui-ci, c'est un gros, hein. Ça doit bien faire 30 mètres de long, donc de haut quand il sera mis vertical, et je dirais 7-8 mètres de diamètre. Donc c'est le genre d'appareil qui va être calculé de façon extrêmement précise chez nous et qui va ensuite être fabriqué chez ce qu'on appelle un chaudronnier. Voilà un autre type d'appareil sous pression. Alors ça, c'est un réacteur de polymérisation pour faire du polyéthylène. Polyéthylène, vous en avez partout, là. Vous en avez dans les bouteilles, etc. Ça se fait dans certains réacteurs qui sont comme ça. Bon, ben, ça se calcule. Alors évidemment, ce genre d'appareil, en général, c'est défini par l'ingénieur procédé. Donc il y a des méthodes, on n'a pas inventé tout seul. Et ensuite, c'est construit par un fournisseur. Ça peut marcher jusqu'à des pressions de 3000 bars, 3000 atmosphères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 3000, c'est énorme. La première fois que j'ai vu le chiffre, je me suis dit, on a dû se tromper d'un zéro. 3000 bars. C'est pour ça qu'on fait des tubes, en fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben, voilà un four. Vous voyez les voitures, hein, sont petites. On fait des grosses choses. Hein. Alors le four, là, il est sur roulette parce qu'on est en train de l'amener sur un site. Donc c'est un four de ce qu'on appelle de craquage. Ça va servir aussi à faire des matériaux pour faire des plastiques à partir du pétrole. Donc ça, c'est un four de vapocraquage qui va fournir de l'éthylène. Donc si vous voyez les voitures, bon, je ne sais pas, une voiture comme ça, ça doit faire 1,80 m de haut, et il doit bien y avoir 20 ou 30 voitures empilées pour arriver en haut du four. Hein. Bon, c'est des belles bêtes. Donc vous comprenez un petit peu qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce genre de choses. À part le matériel, on a d'autres spécialités. On a des spécialités de tuyauterie, par exemple. Alors ben, là, on va voir le genre de truc qu'on doit réaliser, là. Entre les équipements, il y a des tuyaux, des tuyauteries, et il va falloir que quelqu'un les étudie. Et ce n'est pas si simple que ça, quand vous regardez. Il y a des échangeurs, il va falloir les calculer. Alors ça, ce sont les techniques de conception assistée par ordinateur qu'on va mettre en place. C'est aussi un métier. Un deuxième métier, c'est d'être capable de se servir d'un ordinateur pour calculer des efforts, des tuyauteries, pour faire des maquettes d'implantation, de plateformes. Donc avant de construire la plateforme, il faut absolument qu'on ait fait le détail de toute l'implantation et de tout le cheminement des tuyaux. Et ça, ça se fait aussi par ordinateur. Et cette plateforme, la voilà, en cours de transport, vous voyez. Donc du dessin à la réalité, alors là c'est le transport, les espèces de colonnes en ferraille que vous voyez au-dessus, ce sont en fait les pieds de la plateforme, qui, pendant le transport, sont en haut. Et lorsqu'on va la poser sur le fond de la mer, on va les faire descendre doucement à l'aide de vérins. Donc à la fin, la plateforme aura l'air de ce qu'elle avait sur la photo précédente. Et ça, c'est une vraie plateforme qui est en train de partir du chantier jusqu'à son lieu. Donc c'est le genre de choses qu'on construit. À nouveau, il y a énormément de gens qui ont travaillé, mais il y a peut-être 20 000 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc quand on étudie les tuyauteries, voilà le genre d'outils qu'on utilise. Toujours de la conception assistée par ordinateur pour arriver à faire circuler les tuyaux sans qu'ils se rentrent les uns dans les autres. Ça, c'est l'étude d'un module. C'est uniquement de la structure, ça. Tout ça, c'est pour voir si ça tient debout. Et derrière, on calcule, l'ordinateur calcule. Ce sont des résultats finaux, ça. Évidemment, ça ne devient pas tout de suite comme ça. Et pourquoi on a besoin de ça? Ben voilà, parce que c'est ça qu'on réalise. Et si on n'a pas la conception totale des choses avant de commencer à construire, ben y a de fortes chances qu'on n'arrive pas au bout de notre travail. Bon, la photo n'est pas truquée, mais elle est un petit peu... Elle est prise de façon à donner une impression de complexité qui n'est pas tout à fait vraie. C'est pas tout à fait truqué. À part les tuyaux, on a quoi? On a beaucoup de génie civil. Beaucoup de génie civil, de béton, de structure, puisqu'il va falloir ces tuyaux les faire passer sur quelque chose. Donc on va avoir des structures comme ça à construire, du béton, qui en fait, là c'est au moment de la construction, mais avant ça, ça va évidemment être tout calculé par des ingénieurs ou des techniciens qui vont définir la structure, quelle épaisseur, quelle longueur, comment on les met. Puisqu'évidemment, dessus, on va mettre du poids, il faut que ça tienne. Si ça ne tient pas, c'est dangereux. On ne fait rien sans l'électricité, évidemment. Bon, ben, c'est joli hein, quand c'est éclairé comme ça. C'est moins joli quand ça ne l'est pas. L'électricité, ça prend une place très très importante dans notre métier. Donc on a des gens qui sont spécialistes d'électricité, aussi bien de calculer des câbles, de calculer des puissances, de calculer des transformateurs, concevoir les centrales de production, concevoir les stations électriques, tout ce qui est variation de vitesse, etc. C'est un métier complètement différent qui vient s'insérer dans la chaîne de l'ingénierie. Et puis, il va falloir qu'on opère. Alors, si vous connaissez ce monsieur Simpson, n'est-ce pas? Lui, il est toujours en train, dans sa salle de contrôle, d'avoir des problèmes. Bon, nous, on essaye d'en faire des plus simples, des plus... comment dire, opérationnel. Donc on conçoit tous les systèmes de contrôle, on conçoit tous les systèmes de sécurité. Ce sont des systèmes très automatisés qui vont arrêter les usines lorsque l'on sera en situation de danger. Le danger, ça peut venir d'une fuite, ça peut venir d'une pression, ça peut venir d'une température, ça peut venir d'un tas de choses. Donc partout, il va y avoir des capteurs, il va y avoir des détecteurs d'incendie, il va y avoir des détecteurs de fuite, et ces choses-là, seront connectés à un système de sécurité qui va arrêter l'usine avant qu'il y ait un drame. Alors ça ne marche pas toujours malheureusement, mais en fait plus on avance dans le temps et plus les installations sont sûres. Mais tout le monde a certainement en mémoire des accidents industriels. Lorsqu'une usine est bien conçue, ça ne devrait jamais arriver. Donc quelque part, quand ça ne marche pas, c'est qu'on a raté quelque chose. Donc il faut savoir qu'on a un énorme travail à faire au niveau de l'automatisation, et c'est un travail qui commence le premier jour en fait de la conception et qui se termine bien après le démarrage de l'unité. Alors en même temps que, disons, l'automatisation, il y a des instruments, il y a des vannes de contrôle, il y a des mesures de débit, il y a des manomètres pour mesurer la pression, il y a des thermomètres, et tout ça c'est transmis par électronique en général à un ordinateur de contrôle qui, lui, va gérer ces informations sur la base d'un programme informatique qu'on aura donné à cet ordinateur. Et donc l'opérateur lui-même peut intervenir, évidemment, on peut faire manuellement, mais en général, c'est pratiquement tout automatique. Dans le contrôle, il y a aussi la fonction de laboratoire, analyse chimique, des performances, par exemple, analyse des produits. Donc c'est à nouveau un autre métier, le métier d'analyste chimique qui vient dans l'ingénierie, puisqu'on a beaucoup d'analyseurs et beaucoup de résultats à fournir. Alors, Alors après, il y a un petit peu le côté plus, comment dire, impressionnant de ce métier, c'est ce qu'on appelle l'offshore. L'offshore, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas à terre. Par opposition aux installations à terre, l'offshore, c'est à la fois les plateformes, c'est les terminaux, ce sont des modules et ce sont des bateaux. Alors les bateaux, on les appelle des FPSO. Le F, c'est pour floating en anglais, flottant en français. Je ne traduirai pas le reste, ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est par exemple une plateforme. Une plateforme, elle est posée normalement sur le fond de la mer ou elle est flottante, mais fixe quand même, en position, ancrée. Donc nous, on fait beaucoup, beaucoup de plateformes, surtout que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on exploite de plus en plus de gisements de pétrole en mer. Alors évidemment, les compagnies pétrolières qui aiment bien faire beaucoup d'argent ont commencé par exploiter les champs faciles, ceux qui sont à terre, qui ne sont pas trop profonds, etc. Et bien beau jour, ils se sont trouvés devant la situation, c'est que ceux-là n'ont plus tellement de réserves et il va falloir aller en mer. Alors, au début, en mer, c'était 100 mètres. Aujourd'hui, c'est 3000 mètres. Alors 100 mètres, on fait une plateforme avec des modules comme ça, là, vous voyez. Donc ça, c'est un module et il est tiré pour être chargé sur la plateforme. Mais on fait aujourd'hui des bateaux qui vont se déplacer. Alors ça, c'est un bateau, c'est une maquette, attention, c'est pas un vrai bateau. C'est un bateau pour faire du gaz liquéfié à partir d'un gisement qui sera d'un gaz qui va venir du fond de la mer. Donc on conçoit des bateaux qui sont en fait des usines flottantes. L'avantage d'un bateau sur une plateforme, c'est que le bateau, quand il n'y a plus de réserve, il peut aller ailleurs. Et on va le mettre ailleurs. Donc c'est quelque chose qui peut durer très longtemps, un bateau. Et voilà un vrai bateau qui va sur son lieu de production. Là, vous remarquerez que lui, il est tracté parce que, évidemment, pour aller d'un lieu de... Ce ne sont pas des bateaux très rapides, hein, ce ne sont pas des hors-bord. Donc pour les emmener sur leur lieu de production, il vaut mieux qu'il y ait des remorqueurs parce qu'eux-mêmes n'ont pas assez de puissance de mouvement. On fait aussi dans l'offshore des aménagements de bateaux. On développe aussi des outils et des méthodes d'intervention. Alors quand je parle offshore, là je vais plutôt parler de ce qui se passe sous la mer. Donc on a des bateaux. Ça, c'est un bateau qui appartient à Technip, qui fait partie de notre flotte, qui est là pour installer des tuyaux flexibles au fond de la mer, pour aller chercher des réservoirs de pétrole à 3000 mètres, 2000 mètres, 1000 mètres. Donc ce bateau-là, il est équipé de systèmes d'installation pour descendre des flexibles. Donc vous voyez peut-être, ça se voit peut-être pas bien, mais à l'arrière du bateau, il y a une espèce de gros carrousel là, sur lequel est enroulé un tube flexible, qui va dérouler ce tube jusqu'au fond de la mer. On voit un petit peu mieux là le bateau, c'est un autre bateau de la flotte. Et sous la mer, on conçoit des robots et des espèces de cabines pressurisées pour aller... Le micro marche pas très bien. Installer en fait ces tuyaux, parce que bon, les tuyaux on peut les poser sous la mer, mais il faut évidemment qu'on les raccorde à quelque chose. Et donc on conçoit des robots, des choses comme ça, qui vont sous l'eau et qui vont faire le travail, parce que les plongeurs ne vont pas descendre à 3000 mètres pour raccorder tous ces tuyaux. Il y a un métier en fait quand même de plongeur pour aller faire des travaux sous-marins, mais bon, évidemment eux ne descendent pas à cette distance. Alors, j'ai parlé de tuyaux flexibles. Ces tuyaux qu'on monte sur les bateaux, ils sont fabriqués dans des usines. Alors, on a acheté récemment, enfin, il y a peut-être 4-5 ans, on a acheté une usine qui fabrique ces tuyaux flexibles. Et donc, toutes ces installations sous-marines que vous voyez sur cette petite maquette, on fabrique les plateformes, évidemment. Donc, au-dessus, vous voyez les plateformes, soit posées sur le sol, soit des plateformes qui sont semi-flottantes, c'est la quatrième à partir de la gauche, et puis vous avez finalement le bateau, qui est aussi une des choses qu'on peut connecter. Et évidemment, tout ça, il faut le connecter au fond de la mer à des puits. Et bien, tout ce matériel qui est au fond, ces petits tuyaux flexibles, enfin, ils ne sont pas si petits que ça, hein, qui peuvent faire jusqu'à 30 km de long sur le fond, on appelle ça des ombilicaux. que ça a l'air très, ça ressemble à un cordon ombilical où on accroche le bateau à la source qui est le réservoir, plus tous les systèmes de montage, les vannes et les têtes de puits qui sont en jaune sur le fond. Eh bien, ça, c'est de l'ingénierie industrielle aussi. Et ça, je peux vous dire, c'est un métier super passionnant aussi. Je regrette de ne pas le faire moi-même. Et voilà les tuyaux qu'on monte. Vous voyez, ces tuyaux flexibles, c'est nous qui les concevons. Enfin, c'est une certaine partie du personnel de technique qui les conçoit. Ce sont des matériaux extrêmement spécifiques où il va y avoir, par exemple, plusieurs tuyaux enveloppés de plusieurs gaines. Et c'est ça qu'on fabrique dans cette usine que j'ai montrée tout à l'heure. Donc tout ça, c'est par contre de la technologie que j'appellerais de la technologie de pointe. Tous les jours, on invente un nouveau tuyau qui sera plus performant, qui sera plus... comment dire, qui sera plus léger, mais tout en résistant mieux au froid, au chaud, etc. Donc voilà le genre de choses qu'on fait dans l'ingénierie industrielle. Du pétrole. Ensuite, on fait évidemment de la sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure. La sécurité, c'est essentiellement une affaire de respect de normes, une affaire de calcul, d'études de danger. Donc ce sont des gens qui ont une connaissance assez étendue de tous les systèmes préconisés par les administrations, de toutes les règles, et qui nous obligent à installer des tas de sécurité pour que les usines ne soient pas dangereuses. On a ensuite une spécialité qui est partagée par beaucoup de gens, c'est la spécialité environnement. Moi, je fais de l'environnement et pourtant, je ne fais pas partie du service environnement. Mais la spécialité environnement, c'est quoi? C'est être capable de calculer et d'améliorer, disons, l'impact d'une usine sur un environnement donné. Par exemple, vous allez avoir une cheminée qui va cracher de la fumée. Il va d'abord falloir que cette fumée ne soit pas trop sale. Excusez-moi du peu, parce qu'on a le soufre, on a le mercure, on a les oxydes d'azote, vous connaissez même les particules de carbone, il peut y avoir tout ça. Donc là, il y a des normes. Mais même comme ça, c'est pas bon. Il faut que cette cheminée, on vérifie qu'avec le vent, avec la hauteur de la cheminée, avec les températures, bien, elle ne va pas aller créer des zones où il va y avoir une concentration de produits. Donc aujourd'hui, ça devient assez compliqué. D'abord parce qu'il y a beaucoup de monde sur Terre, donc une usine peut être pas très loin d'un endroit très habité. Et puis parce que les normes, bien, il faut mieux les respecter. Alors il y a de nouveaux défis un petit peu, puisque jusqu'à présent on rejetait la fumée, elle était propre, mais cette fumée en général elle était pleine de gaz carbonique. Aujourd'hui on nous dit, ah ben maintenant le gaz carbonique il faut le récupérer, il faut le stocker, et c'est là qu'on développe de nouvelles technologies. Donc c'est un autre métier. Mais l'environnement, c'est aussi, par exemple, dans certaines usines on va pomper de l'eau de mer pour arriver à l'utiliser comme fluide pour refroidir quelque chose. Cette eau de mer, on va la rejeter également dans la mer, évidemment, on ne va pas la mettre à terre. Mais quand on la rejette dans la mer, elle est un peu plus chaude. Mais il va falloir vérifier que cette eau un peu plus chaude, elle ne va pas gêner la vie sous-marine, et toutes les algues, etc., qu'elle ne va pas créer un problème à l'endroit où on la rejette. D'où on va étudier de la dispersion, on va étudier les courants, on va étudier un tas de choses. Donc tout ça, ça fait partie de l'environnement. Il y a également les techniques dites de dépollution. Et dans les études d'environnement, il ne faut pas oublier les études de bruit, puisque à nouveau, on a des usines qui contiennent pas mal de machines. Si on laisse ces machines sans protection, contre le bruit, eh bien, ça serait invivable à la fois pour les gens qui travaillent dans l'usine, mais également pour ceux qui n'habitent pas trop loin de l'usine. Alors aujourd'hui, on fait énormément d'études de bruit, puisque le bruit est cumulatif et surtout exponentiel. Donc ça serait invivable de mettre des usines qui ne seraient pas protégées. Alors sachant qu'à chaque fois, il y a toujours une solution technique à un problème. Le problème, c'est qu'en général, la solution technique coûte trop cher. Ça, on nous a toujours dit ça. Donc on peut dire, il n'y a pas de problème technique dans la vie, il n'y a que des problèmes d'argent. C'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour les usines. Donc notre métier, c'est de trouver la solution, mais au prix le plus bas possible. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, on a passé les études, là on va rentrer dans quelque chose qui est moins scientifique, mais certains d'entre vous feront peut-être des études différentes. Et il y a des gens qui font des achats. Donc ces gens-là, ils sont plus tourné sur le côté contrat, côté finance, côté gestion. Et ils vont essayer d'acheter des équipements, puisque tout ce qu'on a défini, il va falloir l'acheter. Alors nous, on achète dans le monde entier. On achète en Chine, en France, en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud, et même, je pense qu'on achète aussi en Scandinavie. Et le but des achats, c'est de trouver, pour un problème donné, de trouver l'équipement le moins cher possible, mais qui va faire toutes les performances. Donc là, on a des gens, à peu près 200 ou 300 personnes, qui travaillent uniquement pour les achats. Alors attention, ils travaillent de manière, comment dire, complètement connectée, c'est-à-dire qu'ils partagent toutes les informations. Donc Technip, on a pas mal de bureaux à travers le monde. Là, tous ces bureaux-là sont connectés par l'informatique, par les systèmes d'échange, et ils ont des bases de données communes. Comme ça, tout le monde profite de l'expérience de tout le monde. Donc ça aussi, c'est ce que j'appelle le travail d'équipe. Donc, c'est ça. Et puis enfin, bon, finalement, la construction. Ça, c'est le côté, c'est ce qu'on voit le plus finalement dans l'ingénierie. C'est la construction finale des usines. C'est le métier où vous allez partir et sur un site pendant un an ou deux. Alors ça sera n'importe où dans le monde. Et puis vous allez construire à partir des plans, à partir des équipements. Vous allez gérer des équipes de chantier, vous allez faire tout ce genre de choses. On a des équipements, par exemple, à lever qui font plus de 1000 tonnes. Ça veut dire qu'on va avoir des grues qui sont capables de soulever 1000 tonnes. On a des chantiers qui impliquent 50 000 personnes sur le même site. C'est toute une gestion. Donc vous voyez que tout ça, c'est assez grand. Bon, on a aussi des tout petits chantiers où il y a 4 personnes. Ça arrive. Mais bon, c'est un petit peu plus rare de nos jours. Mais ça arrive. Les derniers chantiers qu'on a fait, effectivement, c'était plutôt les chantiers à 50 000 personnes que les chantiers à 4 personnes. Mais pourquoi pas? Donc en construction, voilà ce qu'on a. On va passer des marchés de travaux à des sociétés, on va monter des structures, on va monter tous les équipements, on va mettre en route l'installation, et on va faire tout ça en essayant de faire ça de façon très sûre pour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous, notre objectif, on parle en millions d'heures de chantier en général. C'est-à-dire qu'on prend tous les gens et on compte les heures qu'ils font et ça fait des millions d'heures. Donc les gros contrats, c'est peut-être 30 millions d'heures de chantier. Eh bien le but, c'est d'arriver au minimum d'accidents ou d'incidents. Alors on n'est jamais arrivé à zéro encore. Mais l'objectif affiché, c'est zéro. Bon, alors, quand on arrive à faire 30 millions d'heures sans avoir blessé gravement quelqu'un, on est très content. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, mais c'est un objectif. Le dernier chantier qu'on a fait, en tout cas, ils ont réussi à aller jusqu'à 20 millions d'heures sans avoir un seul accident qui justifie un arrêt de travail. Il y a peut-être eu quelques petites blessures, mais pas d'arrêt de travail. C'est déjà beau quand vous avez 50 000 personnes. Alors finalement, j'ai parlé d'un projet. Je vais essayer de passer un peu vite parce que je pense que ça va pas forcément vous intéresser énormément. Mais toutes ces choses qu'on construit, chacune des usines est un projet. Et un projet, c'est un peu comme une ville indépendante à l'intérieur de la société. Un projet, il y a un chef de projet, qui en général est un personnage qui a beaucoup d'autorité et pas mal de compétences, et qui va gérer des sommes qui vont se compter jusqu'à des milliards d'euros ou de dollars. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir les épaules extrêmement solides. Et cette personne, ça va être comme un chef d'orchestre, c'est lui le chef. Ce qu'il dit, c'est il est responsable, ce qu'il dit, c'est ça doit être fait. Tout le monde, disons, obéit. On a le droit de discuter, mais on obéit. Alors évidemment, il est chef, mais pas tout seul. Il va s'entourer de gens qui vont lui donner des conseils, il va discuter, mais c'est quand même lui qui décide. Et ce chef de projet va gérer toute l'équipe avec évidemment des adjoints. Quand on parle de plusieurs milliards d'euros, évidemment, il faut avoir des adjoints qui vont chacun assumer des tâches. Et dans un projet, je l'ai toujours dit, il y a le côté technique, il y a le côté donc gestion, management de projet et le côté contrôle. Le projet, c'est vraiment un métier qu'on apprend. Donc en général, on ne devient pas, on ne rentre pas dans une entreprise chef de projet. On devient chef de projet en ayant fait ses classes dans l'entreprise. un petit peu comme quand on est dans n'importe quel métier, on commence par être apprenti avant de devenir ouvrier à part entière, puis chef, puis superviseur, etc. Et donc le métier d'ingénieur de projet, c'est quand même un métier très très prenant et qui a beaucoup beaucoup de responsabilités. Alors ça, je vais essayer de passer, mais c'est pour vous montrer, en fait, n'essayez pas de lire, c'est écrit trop petit. Mais le projet, c'est tout ça. Et je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a derrière dans les métiers. Vous voyez, c'est une corolle. Alors, je vais aller plus vite, voilà, on va y arriver. Hop, je vais trop loin, évidemment. Voilà. Donc, le projet, ça commence par des études, ça continue par des achats, par du contrôle de projet, par des systèmes de comptabilité, par des gestions de contrats. Ça va faire de la construction, il va y avoir des études de sécurité, il va y avoir de l'informatique, il va y avoir de la documentation, il va y avoir des services médicaux, il va y avoir des avocats, du juridique, et il va y avoir des gens qui gèrent les ressources humaines. Donc il n'y a pas que des scientifiques dans un projet. Et il y a des gens qui font de la comptabilité, in fine. Alors un projet, il est réussi si on a fait du bénéfice à la fin, évidemment. Mais ça nous arrive d'en perdre de l'argent. Alors, si je revenais un petit peu sur tout ce que j'ai dit, l'ingénierie industrielle, c'est d'abord une grosse variété dans les disciplines qu'on va avoir. Des disciplines scientifiques, déjà. Donc, vous en avez une certaine liste là, mais à la base, on fait beaucoup de physique-chimie, d'électronique, de génie civil, on fait de la pharmacie, on fait de la métallurgie, des matériaux, on fait de l'architecture navale, on fait de l'architecture terrestre, je ne l'ai pas listé. On a une variété de métiers, donc je vous ai listé ici tous les métiers auxquels j'ai pu penser là comme ça, sans réfléchir, vous voyez, donc sans réfléchir j'ai réussi à en faire une page, je pense que j'en aurais fait deux si j'avais réfléchi un peu plus, de l'ingénieur procédé, chef de projet, superviseur de chantier, conducteur de travaux, contrôle des coûts, donc des finances, des électriciens, des spécialistes en diverses choses, des spécialistes en sécurité industrielle. La chose de laquelle je n'ai pas encore parlé, c'est tout ce qui est informatique, traitement de l'information, traitement de l'image. On a des spécialistes d'animation qui font des films, qui font des montages pour étudier des installations. Donc on fait des petits films de synthèse, des espèces de clips. On fait, alors c'est à la fois pour la promotion, mais c'est surtout pour les études. On a des gens qui sont donc des automaticiens. On a des assistants de projet qui font un peu de tout. On a des informaticiens, on a des gens qui font de l'organisation de la logistique, en particulier organiser des transports, organiser du ravitaillement, organiser l'administration. On a des gens qui font des visas, qui s'occupent d'organiser les visas. On a des interprètes et des traducteurs, puisqu'on travaille dans toutes les langues. On a également des gens qui gèrent ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire qui gèrent tous les gens, s'assurant que les gens sont heureux dans leur métier. Bon, on n'est pas toujours heureux dans notre métier, mais on essaie. On a également des documentalistes. Alors j'ai dit qu'on avait des tas de métiers, on a aussi beaucoup de choses à manipuler, on travaille du très chaud au très froid. Alors par exemple, si vous faites du gaz liquéfié, vous vous trouvez à moins 160 degrés, mais quand vous faites des fours de gazéification, vous êtes à 1200 degrés. Bon, ben, on gère les deux, quoi. Donc c'est quelquefois dans la même usine. On va de la très haute pression à la très basse pression. J'ai déjà parlé des trucs qui font 3000 bars, les réacteurs de polymérisation. On fait aussi des choses qui sont sous vide. Alors sous vide, c'est moins 500, moins 0,5 bar, disons, par rapport à la pression atmosphérique. Donc on va du très haut au très bas. On va faire du lourd, on va faire du léger, évidemment. Alors nos équipements, ils peuvent faire 1000 tonnes, ils peuvent faire 100 tonnes. Et puis on va manipuler du gaz, on va manipuler du liquide. Le gaz, bon, c'est le gaz naturel souvent. Le liquide, ça va être le pétrole. Et les solides, ben, ça va être le charbon, ça va être les polymères. Quand on a fait de l'éthylène, ben, ça fait des petites billes de polyéthylène. On va manipuler de l'eau, des hydrocarbures liquides, des hydrocarbures gazeux, des saletés, des choses polluantes, des choses propres. Donc on a une grosse variété d'interventions. On a également quelque chose qui est intéressant, c'est presque le plus intéressant, c'est que c'est très varié sur le plan du personnel. Moi, je travaille avec des gens qui viennent de tous les pays du monde. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on n'est pas forcément à même de les comprendre tout de suite. On travaille avec des Japonais, je peux vous dire que ce n'est pas forcément facile le premier jour. En plus, on ne parle pas la même langue, on se parle en anglais. Aucun n'est à l'aise en anglais l'un avec l'autre. On a tous des accents différents. On travaille avec des Indiens, on travaille avec des Africains, on travaille avec des Français, avec des Anglais, avec des Allemands. Bon, on n'est jamais sûr de pouvoir parler français en France. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Ces gens-là aussi ont des cultures différentes. Ils ont des façons de faire différentes. Et c'est très intéressant d'apprendre à comprendre comment eux nous jugent. Par exemple, un Japonais, moi j'étais très surprise, un Japonais ne vous dira jamais non. Ça, c'est... Il ne peut pas dire non. Dans sa culture, ce n'est pas possible. Même s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas dire non. Alors il va vous dire oui, mais il faut que vous compreniez que c'est non. Ce n'est pas facile. Au début, on se dit, ben, il m'a dit oui, pourquoi il me dit oui ? Et puis après, il ne fait pas ce qu'il a dit. Parce qu'il ne peut pas dire non. Il ne sait pas le dire, il va essayer de le faire comprendre différemment. Alors il dira non avec le oui avec le sourire ou oui sans le sourire, il faudra deviner que c'est non. Voilà. Il y a également de respecter évidemment toutes les façons de faire de chacun, y compris d'ailleurs les nôtres. Je veux dire, certaines personnes n'aiment pas les Français. Ils disent oui, les Français, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont toujours en grève. Il faut qu'ils vivent avec ça aussi. Nous, on vit bien avec eux, il faut qu'ils vivent avec nous. Donc, se faire respecter et respecter les autres, c'est quelque chose. Donc, multi-clients également, puisqu'on a nos clients dans tous les pays du monde, et le client est roi à chaque fois. Et puis, on a aussi des partenaires. Donc, quand je dis partenaire, c'est qu'on ne travaille pas toujours tout seul. Technique travaille avec d'autres sociétés, on est partenaire. Au début, on est concurrent, après, on s'associe. Alors, quand on s'associe, il faut que ça soit pour les intérêts de chacun. Donc, c'est là qu'on est obligé d'apprendre, en fait, à négocier avec les gens. C'est pas seulement les clients, c'est aussi nos partenaires. Et évidemment, donc, on est obligé de parler un langage commun. Il y a toutes les langues, mais le langage de base dans ce métier, c'est essentiellement l'anglais. Parce que beaucoup de gens parlent anglais, et donc pour se comprendre, on ne peut pas apprendre toutes les langues de la planète. Évidemment, ce serait mieux si on parlait japonais avec les japonais, chinois avec les chinois, mais on n'aurait pas assez de toute la vie pour apprendre les langues, donc on parle presque tous en anglais. Donc à la fin, l'anglais, je ne voudrais pas insister, mais l'anglais c'est important. Même si on le parle avec un accent pas possible, c'est pas grave, l'essentiel c'est de comprendre et d'être compris. Après, le reste, c'est pas, on apprend le vocabulaire plus tard. Alors les projets, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais revenir dessus. On ne fait pas que des raffineries, on ne fait pas que des usines à gaz. On fait aussi de la pharmacie, on crée des ateliers qui construisent des médicaments. On travaille également dans l'industrie minière, on fait des usines de traitement des minéraux. On travaille dans l'offshore, ça je l'ai déjà dit. Et on fait également des bâtiments. On a construit des lycées comme celui-là. Alors dans le bâtiment, c'est un petit peu différent. En général, on a un architecte qui va faire les plans, etc. Et nous, on se contente de gérer le projet et de faire en sorte que le bâtiment soit bien construit. Mais on intervient également dans le bâtiment. Il y a d'autres spécialités que je n'ai pas mentionnées, parce que sinon on n'en sortirait plus. Donc j'avais parlé du côté multiculturel, etc., des clients. On a la variété géographique. On ne s'ennuie pas dans ce métier, normalement, si on est prêt à être mobile, c'est-à-dire si on est prêt à... surtout quand on est jeune, évidemment, on est moins mobile quand on a des enfants, etc. Mais quand on est jeune, on voyage. Hier, j'étais au Qatar. Ce matin, je suis à la Seine, dans la région de Toulon, donc ce soir à la Seine. C'est ça un petit peu. Alors moi, je voyage relativement peu. C'est-à-dire, je voyage de façon courte. Il y a des gens qui voyagent beaucoup plus. Par exemple, les chefs de projet, ils vont passer un an, deux ans dans un pays. Mais on peut aussi faire des voyages courts et c'est très intéressant. Donc, il faut en profiter, à moins de détester l'avion, ce qui peut arriver, on peut être claustrophobe, et bien c'est un métier intéressant pour ça. Vous avez l'occasion d'aller en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, sur des bateaux, en Afrique, en Chine, il y a des gens qui sont allés en Chine. Moi, mes premières missions, c'était en Russie, à l'époque de la Russie de l'URSS. Donc c'était un peu surprenant pour quelqu'un qui venait de la région parisienne d'arriver à Moscou où on n'avait pas le droit de bouger tellement, où dès qu'on faisait un pas, tout le monde savait qu'on était allé là, etc. C'était très différent, on ne parlait pas russe. Je suis allé passer un an aux États-Unis à un moment donné. Bon, je n'avais pas encore d'enfant, donc c'était possible. Voilà. ce genre de choses, ben, il faut en profiter. Il faut en profiter et c'est très très agréable. Alors on travaille donc un peu partout, que ce soit... voilà, ça c'est notre bureau par exemple. Donc on peut, vous voyez, je peux aller travailler, si je veux, je vais à Perth en Australie, puis je vais travailler pendant un an là-bas. J'ai un collègue qui est là-bas, il est très content, il ne veut plus rentrer. Bon, il y en a qui sont en Malaisie, on a des bureaux en Chine, on a des bureaux en Scandinavie, on a des bureaux aux États-Unis, évidemment, en Amérique du Sud. On a même des bureaux en Angola, et là il n'est pas dessiné, mais on a des bureaux au Nigeria. Donc il y a énormément de possibilités de voyager, je dirais voyager à l'œil hein, finalement. C'est bien parce qu'on ne paye pas nos voyages. Alors, des fois, il fait un peu froid sur nos chantiers. D'autres fois, il fait très chaud, comme là, dans le désert. Donc ça, c'est au Moyen-Orient, en fait. C'est dans le désert. J'ai déjà montré ça, on travaille sous la mer, sur la mer. On travaille partout. Voilà. C'est de plus en plus pointu, je dirais, en technique. Mais finalement, c'est de plus en plus facile parce qu'on a de plus en plus de moyens. Quand j'avais votre âge... j'étais au lycée, on avait une règle à calcul. Je suis sûr que vous n'en avez jamais vu. Moi, quand j'ai montré ma règle à calcul à mes enfants, ils ont dit « qu'est-ce que c'est ce truc ?» Aujourd'hui, on commence à la calculette, on finit à l'ordinateur. Bon, plus personne sait se servir d'une règle à calcul. Eh bien, c'est pareil pour les usines. Les choses qu'on faisait il y a 50 ans, elles sont presque au musée aujourd'hui. Les premiers équipements, tout ça, ils sont au musée. Tous les outils sont au musée. Ça évolue très très vite. Tous les ans, il y a des changements, il y a des améliorations. Et en fait, avec ça, on a été très aidé par l'informatique. Donc on est en fait de plus en plus dépendant de l'informatique. Donc il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans l'ingénierie qui peut se passer de l'informatique. On est tous quelque part des utilisateurs, je dirais, avertis. Alors bon, moi je ne suis pas très très averti, mais il y a tous ces systèmes... Quand on faisait à la main nos usines, on faisait des maquettes. Il y avait des maquettistes qui construisaient, qui s'amusaient toute la journée à construire des modèles réduits. Et on faisait des usines en modèle réduit. Aujourd'hui, on les fait en modèle réduit dans l'informatique, directement. Alors ça a perdu un peu de son charme, parce qu'on n'a plus le modèle réduit affiché. Enfin, par exemple, on aurait pu mettre un modèle réduit à l'entrée de Technip pour montrer comment c'est. Mais non, maintenant c'est fini. C'est toute l'informatique, donc on a perdu la maquette qu'on faisait en plastique et qui était en fait un autre métier qui était le métier de maquettiste. Donc aujourd'hui, voilà, avant on faisait ça, on construisait une vraie maquette et aujourd'hui on fait ça. Et ça c'est de l'ordinateur. Alors sur la photo on voit peut-être pas trop la différence, mais quand même, il y a une différence, c'est que ça on l'expose pas dans un hall d'entrée. Alors un truc qui est un peu impressionnant, alors là évidemment ça ne veut rien dire quand on le regarde comme ça, mais tous ces petits ronds, disons, qui sont à l'extérieur, tous ces petits ronds, ce sont des endroits, des centres, soit des centres d'ingénierie, de Technip, soit des projets. Et au centre toutes ces petits ronds peuvent communiquer grâce au système d'information, aux échanges. Donc on utilise en fait sans arrêt tous les systèmes, que ce soit téléphonie, échange de données informatiques, etc., par satellite, tous les jours, il y a des flux d'informations. Et ça nous permet en fait de travailler comme si on était avec des gens qui sont, par exemple en Inde, comme si on était à côté d'eux au même moment. Donc ce sont des choses qui sont en fait, qui étaient inconcevables il y a 20 ans, et aujourd'hui, ben, la nuit on charge des fichiers, le matin on travaille dessus. Il y a un gars qui est à Houston, il va faire une modification. Une heure après, on sait qu'il a fait la modification. On travaille avec des gens qui sont à 10 000 km comme s'ils étaient dans le bureau d'à côté. Et ça permet, c'est quand je dis un travail d'équipe, c'est des équipes qui sont internationales aujourd'hui. Donc on découpe le travail en petits morceaux et chacun en fait la partie qu'il sait le mieux faire, par exemple. Alors évidemment, donc aujourd'hui, vous allez me dire, l'ingénierie, oui, mais c'est quand même de l'industrie. Mais aujourd'hui, on essaie quand même, enfin nous en tout cas, on essaye de faire des choses qui sont propres. Donc on n'en est plus à construire des raffineries de pétrole qui crachent le pétrole par la cheminée, par les tuyaux et qui fuient partout. Aujourd'hui, on essaye de faire quelque chose de propre pour qu'on fournisse en fait de l'énergie aux gens, on fournisse des produits, on fournisse des objets qui soient vivables dans le temps. On appelle ça le développement durable. On n'est pas encore au bout parce que quand même, ça, comme je disais, ça coûte cher. Et si c'est un métier qui a. On pourrait dire que c'est un métier qui a déjà une centaine d'années, tout compris. Technique n'a que 50 et quelques années, mais le métier lui-même a vraiment explosé il y a une centaine d'années. C'est quand même un métier qui a beaucoup d'avenir encore. Alors le pétrole a peut-être moins d'avenir aujourd'hui qu'il n'en avait, mais il y a d'autres choses. Il y a les énergies renouvelables, il y a toute cette problématique du changement climatique qui va être gérée par des gens comme nous également. Donc c'est des métiers où il y a encore beaucoup à faire. Et finalement, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est le centre Pompidou à Paris. Moi, j'ai toujours appelé ça une raffinerie, vous voyez. La première fois que je l'ai vu, c'est. Voilà. Et on sait quand même faire des choses qui ressemblent à ce qu'on appelle des monuments aujourd'hui à Paris. Le centre Beaubourg, donc, est quand même un musée, un centre d'exposition, il a été construit comme si c'était un bâtiment industriel. Bon, ça, c'est la conclusion que j'ai déjà donnée. Donc, pour moi, c'est fini. J'aimerais vous passer un petit film. Alors, vous allez juste regarder. Écoutez, je vous avoue, c'est un film un peu publicitaire de Technip, mais il vous représentera, mais en film, un petit peu les genres de choses que je vous ai montrées. Et ça ne dure que 5 minutes, donc vous ne serez pas lassés. Et après, vous pourrez me poser des questions si ça vous intéresse. Et je vous remercie d'avoir été silencieux. Vous avez été parfait.
mondial d'acheteurs est composé de spécialistes de chaque famille de produits et de chaque marché. Leur mission, sélectionner les fournisseurs dans une optique de collaboration à long terme et superviser les productions pour assurer les meilleures conditions de qualité et de coût. Parce que le monde est notre champ d'action, nous voulons être des acteurs responsables de son développement durable. La sécurité, la responsabilité sociale et le respect de l'environnement font partie de nos priorités à chaque phase de nos projets. Protéger les collaborateurs, les informations et les installations est un engagement absolu. À travers nos centres d'ingénierie et nos usines, nous participons pleinement au développement industriel et à l'emploi local. Nous améliorons ainsi les compétences et partageons les savoir-faire. Nous relevons en permanence les défis environnementaux du secteur énergétique, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mettre en œuvre chaque jour des solutions et des technologies pour valoriser les ressources naturelles et assurer une meilleure efficacité énergétique. Un métier que nous pratiquons en accord avec nos valeurs et dans une perspective de développement durable, dans le respect des hommes, de leur sécurité et de leur environnement. Un métier au service de l'énergie. Métier dont nous sommes fiers.
Alors, je ne voulais pas montrer pour le côté publicitaire, mais parce que ça a une image, ça montrait des choses que j'ai montrées en photo. Vous voyez que c'est varié, vous avez vu des gens qu'on voit dessus.